Salut à toutes et à tous, content de vous retrouver sur Radio Campus Amiens. On sera ensemble le temps d'un infoclub sandwich. Aujourd'hui, je suis avec Colline à la technique.
Salut Stéphanie.
Salut. Et Alvin, un jeune stagiaire en visite chez nous pour quelques jours. Salut.
Bonjour.
Alvin. Tu présenteras ta première brève en deuxième partie d'émission. On a hâte de t'écouter, même si tu stresses. On voit, hein, t'es un peu stressé, mais ça va bien se passer, t'inquiète. Alors, au programme de cette nouvelle émission, on va vous parler de zombies, d'une visite nocturne et de marionnettes. Mais en premier lieu, on va commencer avec un retour sur la fête de la science qui, cette année, avait pour thématique « Océan de savoir ». Dans le cadre du festival du CNRS, nous avons réalisé un plateau à Saint-Valéry-sur-Somme le 12 octobre dernier. Alors, on va s'écouter tout de suite entre Anthony Trézèbre, pardon, maître de conférence à l'Université de Lille. Bah, décidément, là, je sais pas,
tu vas y arriver.
Mais carrément, j'ai pas bu assez de thé avant. Qui nous explique comment les micro-ruisseaux forment des océans d'innovation.
On va parler magie, car l'eau est partout, mais pas forcément visible. C'est ça le côté magique de l'eau. La science aime expliquer les phénomènes. Bah, c'est d'ailleurs ce que cet atelier nous propose. Essayer d'expliquer comment une goutte invisible à l'œil nu va se retrouver et va créer des ruisseaux, des fleuves, des mers, puis des océans. Alors vous, de l'autre côté de la radio, est-ce que vous avez une petite idée ? On dit des petites gouttes naissent les grandes idées. Eh bien, on va les écouter maintenant, ces grandes idées, du moins je l'espère. Hervé, Julien et votre invité, c'est à vous.
Et on va découvrir aussi, Anthony, au long de cette interview, que ces toutes petites gouttes d'eau peuvent faire beaucoup de choses et créer beaucoup de progrès. Pour en parler, on a le plaisir d'accueillir Anthony Trézèbre. Bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes maître de conférence à l'Université de Lille et vous êtes rattaché à l'Institut d'électronique, de microélectronique et de nanotechnologie. On va être pleinement dans ce qui est invisible à l'œil nu. C'est ce qu'on appelle aussi la microfluidique. Comment est-ce que vous la définissez ?
Tout à fait. Donc la microfluidique aujourd'hui est considérée vraiment comme une science nouvelle hein, qui permet la compréhension justement de ces phénomènes à l'échelle micrométrique, quelque chose qui n'est pas visible et qui finalement qui drive la circulation des fluides dans les organismes. Par exemple le sang, on va travailler dans des vaisseaux sanguins qui sont de taille micrométrique. Et tout le travail que j'anime au sein de mon laboratoire est vraiment de la compréhension de ces phénomènes à l'échelle micro-nanoscopique. Hein, on parle même de nanofluidique également. Hein, et de pouvoir définir les équations et pouvoir utiliser à bon escient finalement sous forme qu'une sortie magique, ces propriétés-là pour répondre à des problématiques de santé publique par rapport à mon application.
Alors justement, il est beaucoup de questions de magie dans l'intitulé et dans le descriptif de cet atelier. On nous dit qu'on peut contrôler les gouttes. Est-ce qu'on peut réellement le faire ? Est-ce qu'un scientifique a ce pouvoir magique-là ?
Tout à fait. On a la possibilité de confiner finalement ces liquides et de leur donner des propriétés qui ne sont pas des propriétés qu'on a l'habitude de voir avec elles. Notamment le fait de réduire ces échelles va permettre à ces liquides de se comporter complètement différemment. On est capable vraiment de modifier par les moyens de nano-micro-fabrication des surfaces pour les rendre super hydrophobes, super hydrophiles et des choses comme ça pour pouvoir avoir des surfaces auto-nettoyantes par exemple. Et c'est toutes les propriétés qu'on a de pouvoir structurer la matière par ces méthodes un petit peu innovantes et d'innovation technologique pour pouvoir rendre des propriétés de matériaux ou de liquides à des interfaces et de pouvoir comprendre les phénomènes qui nous entourent finalement.
Mais alors justement, quand on a envie qu'un tout petit objet soit transporté par l'eau, est-ce que c'est le matériau qui s'adapte à la goutte d'eau ou est-ce que c'est la goutte d'eau qu'on va transformer pour la mettre en adéquation avec le matériau ?
On va plutôt fabriquer des convoyeurs finalement, hein, des sortes de petits wagons qui vont transporter des molécules actives ou des différents éléments. Hein. Et l'idée vraiment du stand est de mettre en évidence tous ces phénomènes-là, la non-miscibilité de liquide par exemple. Lorsqu'on mélange de l'huile avec de l'eau, on voit que ces liquides ne se mélangent pas. Et on peut imaginer d'avoir de l'ingénierie finalement autour de tout ça pour fabriquer des petits wagons à base de molécules, d'eau par exemple, qu'on appelle de l'émulsion, microfluidique digitale, on appelle ça également, pour pouvoir encapsuler des cellules, encapsuler des médicaments par exemple, et les faire voyager dans le corps d'un patient pour pouvoir développer des nouvelles thérapies, des médicaments de thérapie innovante.
Vous êtes dans l'univers du tout petit. Voilà, l'univers du tout petit pour comprendre finalement des choses de la vie ordinaire. Moi, quand je vous écoute parler avec vraiment beaucoup de passion de ce que vous faites, j'ai une question bête. À quel moment le linge est sec ? Est-ce qu'il reste de l'eau finalement dedans et de l'eau qui est invisible mais qui est nécessaire à la matière ?
Tout à fait. L'hydratation est un phénomène incontournable. Je veux dire, sans hydratation, ça ne marcherait pas. Je veux dire, même une solution qui peut paraître très sèche à l'œil, ben, les propriétés de mouillabilité de ces matériaux-là, la couche d'hydratation, que ce soit de molécules, que ce soit de molécules physiques ou de molécules biologiques, elle est naturellement présente. Je veux dire, tout est forcément hydraté à un moment, de par l'atmosphère également, qui est source d'hydratation. Donc même quelque chose qui peut paraître, pour donner les propriétés de flexibilité, de rigidité d'un matériau, tout est forcément besoin d'eau. Et l'eau, finalement, c'est la potion magique qui nous entoure, qui permet de donner la vie, mais qui nous donne plein de propriétés magiques à ces différents éléments qui nous entourent.
L'eau, on découvre encore des choses sur ses propriétés aujourd'hui, parce que c'est simple, H2O, en quelque sorte.
Oui. Enfin,
voilà. Est-ce qu'il y a encore des choses à découvrir sur l'eau par elle-même ?
Alors, il faudrait demander plutôt ça à des chimistes, on va dire, mais aujourd'hui, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de se servir de ces propriétés, finalement, de l'eau, et de pouvoir, en jouant sur l'environnement qu'il va avoir autour de ces molécules d'eau, de donner des propriétés, finalement, au service de tous. Je veux dire, l'eau, on peut la modifier, on peut lui donner différentes propriétés, mais c'est plutôt l'environnement dans lequel va être placée cette eau qu'on va pouvoir moduler par ces technologies innovantes pour avoir des nouvelles propriétés de matériaux, de nouvelles propriétés moléculaires.
Alors, vous évoquiez tout à l'heure des phénomènes que l'on peut observer, la miscibilité, comment on rend des choses miscibles. Moi, quand je vois des choses, quand on contraint les éléments qui ne sont pas amenés à se mélanger, finalement, c'est pas qu'il y ait une raison si l'eau et l'huile ne se mélangent pas. Est-ce qu'il n'y a pas une raison et est-ce qu'on a absolument besoin de mélanger des choses qui ne sont pas faites pour être mélangées ?
Ah non, pas forcément, justement, c'est tout l'idée de ces propriétés hydrodynamiques, de ces propriétés de densité, de viscosité, qu'on va pouvoir se servir pour pouvoir, justement, on veut pas que ces liquides se mélangent finalement. Donc pourquoi forcer la nature à se mélanger si naturellement la nature a décidé de ne pas mélanger ces liquides-là ? Donc nous, on va vraiment se servir de ça, on va apprendre de la nature, on va en prendre des éléments qui nous entourent pour justement donner des propriétés et des nouvelles innovations à travers tout ça.
Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, quand Hervé a dit « mais en fait l'eau finalement c'est que H2O et est-ce qu'il reste encore des choses à découvrir ?» Vous avez dit qu'il y avait des questions qui étaient à poser plutôt à des chimistes. On a bien compris avec les propos de nos intervenants en début d'émission qu'il y avait une vraie collaboration entre les différentes branches scientifiques. Vous, votre travail aujourd'hui, il consiste en quoi et qu'est-ce que vous apprenez au quotidien ? Est-ce que forcément vous apprenez des choses, outre les transmettre ?
Tout à fait. Donc moi c'est vraiment un métier qui me passionne, la recherche, parce que justement c'est l'un des rares métiers finalement où on peut côtoyer des gens de différents univers. C'est vraiment ce qu'on appelle l'interdisciplinarité, la multidisciplinarité, la métadisciplinarité. Enfin, on a vraiment un univers où aujourd'hui, moi seul dans mon laboratoire, ou un autre collègue seul dans son laboratoire, ne peut pas répondre aux questions actuelles de société. Je veux dire, aujourd'hui, la complexité du monde qui nous entoure a besoin d'interactions entre différentes disciplines. Et aujourd'hui, ce côté pluridisciplinaire, multidisciplinaire est incontournable pour comprendre la vie qui nous entoure. Moi, je travaille beaucoup sur le domaine médical. Et donc, de pouvoir discuter avec des médecins, des biologistes, des cliniciens, des chimistes, des biochimistes. Et on se nourrit de tout ça. Et c'est tous ensemble, finalement, qu'on avance dans ce domaine-là. Et on ne peut plus se... Il y a la physique fondamentale ou les notions fondamentales restent encore un peu incontournables. Il y a encore des choses à découvrir de façon fondamentale. Mais aujourd'hui, pour répondre à ces questions-là et ce retour vers la société qu'on peut amener par rapport aux problématiques qu'on peut rencontrer, les pandémies, des choses comme ça, on a besoin de collaborer avec ces gens-là. Parce que moi, tout seul, je peux développer des outils magiques. Mmh. Mais si les outils ne sont pas utilisés par les personnes qui en ont besoin, ça ne sert pas à grand-chose. Mais pour répondre à cette question-là, il faut discuter avec ces gens-là. De quoi avez-vous besoin ? Comment on se met ensemble autour d'une table pour réfléchir ensemble à répondre à cette problématique ?
Alors, la nanofluidique, c'est beaucoup d'avancées aussi dans le domaine médical. C'est un domaine que, effectivement, vous connaissez bien. Un exemple auquel je pense, c'est le traitement de l'infertilité, par exemple, puisqu'il y a des projets de puces qui pourraient être injectées et aller sélectionner, par exemple, les gamètes qui seraient les plus fiables pour traiter l'infertilité. Est-ce qu'on a d'autres exemples d'avancées concrètes qui sont imminentes, prêtes à être mises sur le marché ?
Alors, aujourd'hui, il y a un grand engouement d'un point de vue éthique, c'est finalement dans tout ce qui est développement de thérapie, c'est finalement la question du modèle animal. Aujourd'hui, l'utilisation d'animaux de laboratoire est une réelle problématique éthique et aujourd'hui, beaucoup d'échecs thérapeutiques se font parce que finalement, les modèles utilisés par les sociétés de pharmacie utilisent des animaux de laboratoire. Donc même si, comme nous, un animal a des poumons, un cœur, des reins et ainsi de suite, la façon dont ces organes ont travaillé est complètement différente du corps humain. Donc même si une molécule magique peut fonctionner chez l'animal, rien ne garantit qu'elle fonctionnera chez l'homme. Et aujourd'hui, bah, cette convergence entre la microfluidique, entre l'ingénierie cellulaire, l'ingénierie tissulaire, lorsqu'on met tout ça ensemble, on peut imaginer demain d'avoir des patients sur puce, basés sur des phénomènes hydrodynamiques à base de microfluidique, où on va pouvoir confiner les espaces, intégrer des cellules humaines à l'intérieur et pouvoir développer des approches alternatives pour pouvoir aller plus vite dans le développement de molécules thérapeutiques.
Sans effrayer pour autant le grand public qui, parfois, quand il est question du médical, on l'a bien vu au moment du vaccin et d'une nouvelle technologie qui arrive, peut être très inquiet de « mais qu'est-ce qu'on va me mettre dans le sang, en quelque sorte ?»
Tout à fait. Et c'est toute la question que, l'année dernière, on avait un atelier de fait de la science aussi également sur le sport et santé. Et on s'est amusé avec les enfants à fabriquer des microsportifs. Mmh. Et dans l'atelier, lorsqu'on s'était ouvert au public comme aujourd'hui, j'ai posé la question à la société, finalement, est-ce que demain vous acceptez d'être soigné par un médicament qui n'a jamais été testé chez l'animal ? Ben, les gens avaient quand même cette peur-là. Même si on leur demande par A plus B que le médicament, il était validé sur des cellules humaines, sur des modèles humains, mimant vraiment votre organisme, et qu'on est quasiment sûr que si ça a marché sur nos modèles, ça marchera chez vous, ben aujourd'hui, cette problématique est encore un verrou, d'accord, de société, pour pouvoir... Et c'est toute l'idée de la fête de la science, de pouvoir diffuser cette information-là. Et c'est grâce à des événements comme aujourd'hui, où on apprend aux gens, finalement, ce qu'on fait, et qu'on ne fait pas du cirque sur puce, on développe vraiment des choses qui sont pertinentes, et du coup, c'est grâce à ça, c'est grâce à cette médiation scientifique et ce retour à la société qui est, pour moi, indispensable, qu'on va pouvoir changer ses mœurs et faire évoluer les choses par rapport à ça.
Pour compléter, justement, comment on rassure le grand public aujourd'hui, quand le grand public qui s'exprime aussi parfois sur les réseaux sociaux, effectivement, pour reprendre un peu le propos d'Hervé, dit on va m'injecter une puce et puis finalement c'est si petit que je ne vais pas m'en rendre compte. Comment on chasse le préjugé, l'idée reçue, la peur qu'on peut avoir?
Alors, il y a aussi beaucoup d'effets de mode, on va dire, par rapport à ça. Hein. Les films de science-fiction apportent beaucoup d'idées qui sont un peu farfelues. Alors, moi, j'ai toujours été impressionné par des films qu'on voyait dans les années 80, lorsque j'étais jeune, et ainsi de suite, et que finalement, qu'on voit que ça arrive dans la société aujourd'hui. On se dit finalement, est-ce que les cinéastes étaient des grands inventeurs et des petits Einstein, et finalement, et que nous, scientifiques, on ne fait que reproduire les films qu'on a vus pendant nos enfances? C'est une question qu'on pourrait se poser, on pourrait en discuter pendant des heures. Et non, c'est vraiment le fait d'expliquer aux gens la transparence par rapport à ce qu'on fait, et dire qu'on n'est pas juste des savants fous dans un laboratoire, et finalement, on fait des choses que ça ne va jamais diffuser derrière, et qu'on va imposer aux gens cette idée-là. Ben non, il y a vraiment ce travail-là de pouvoir retourner à la société, et c'est en apprenant ensemble qu'on va pouvoir faire avancer les choses.
On évoquait en tout début d'émission les qualités des chercheurs, la patience. Voilà, vous êtes un garçon patient. Est-ce que ça vous paraît pas long, tout ce temps, finalement, de recherche avant une mise en application directe de ce qu'on trouve ?
On aimerait que ça soit fait tout de suite, parce que bah, c'est surtout dans des intérêts cliniques. Enfin, moi, quand je vais à l'hôpital et que je vois des patients, on travaille beaucoup sur le cancer avec le Centre Oscar-Lambret à Lille, c'est sûr que je travaille avec des super collaborateurs sur le cancer pédiatrique. Hein, quand on voit un enfant qui atteint d'un cancer du gliome cérébral et qu'on voit que cet enfant, finalement, a une durée de vie assez courte, oui, ça prend un petit peu au bide de dire bah, pourquoi ça ne va pas plus vite. Mais l'idée, ce n'est pas non plus d'aller trop vite, parce que comme la question que vous avez posée avant, c'est la société peut avoir peur de ça. Donc, on a vu pour le vaccin du Covid, je veux dire, les gens étaient très... avoir peur, finalement, que ça a été tellement vite de développer un vaccin, alors qu'on a le vaccin sur le sida, on ne l'a pas encore mis au point. Je veux dire, donc, oui, il y a ce travail-là. L'idée, c'est quand même valider les choses. Dès qu'on travaille avec de la biologie et dès qu'on travaille avec un intérêt clinique, on a besoin de ne pas aller trop vite non plus pour vraiment bien valider les choses.
Faites confiance aux chercheurs, Julien.
Oui, faites confiance aux chercheurs et le plus simple, c'est aussi de venir les rencontrer à l'occasion de cette fête de la science. Et justement, Anthony Trézèbre, qu'est-ce que vous allez proposer tout au long de cette journée?
Et l'idée, bah, c'est vraiment d'émerger les grands et les petits dans le poudlard du CNRS finalement et de pouvoir faire des sortilèges magiques autour des différentes propriétés. Et l'idée vraiment du stand qu'on a choisi, c'est que de faire montrer aux gens les expériences assez simples, assez ludiques sur des phénomènes qui nous entourent dans la vie de tous les jours et d'expliquer un petit peu ces concepts-là. Je veux dire l'hydrophobicité, la miscibilité, la laminarité, différents phénomènes physiques qu'on voit dans la vie de tous les jours et finalement qu'on ne sait pas que ça existe. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir des explications très ludiques, de montrer bah, ça nous entoure et nous, physiciens, on utilise ces phénomènes-là pour pouvoir répondre à ces questions de société.
On marque une pause musicale maintenant, on s'écoute un petit classique parce que j'en ai envie là comme ça, Paranoid des Black Sabbath.
This is with my woman, 'cause she's Jordan, help me with
Vous êtes toujours sur Radio Campus Amiens 87.7 et vous écoutez Info Club Sandwich, votre quotidienne d'infos locales et associatives. Si vous ne savez pas trop quoi faire ce week-end, on a repéré sur les internets quelques activités sympathiques. Si vous êtes fan d'Halloween ou simplement des films de Romero, l'Asso Bulldog vous propose un stage zombie design. Accompagné par Laurent Zupan, créateur des zombies sur la série Walking Dead, sans déconner, c'est pas énorme ça ?
Ah si, quand même.
J'avoue.
Après, bien flipper en plus.
Ouais, mais c'est génial quoi. Quand j'ai vu cette info, j'ai halluciné quoi.
C'est un peu dégoûtant. Hein.
Ah, créateur de zombies pour Walking Dead.
Ça, bon, c'est bref, stylé.
À fond. Donc, il est formateur également à l'école Métamorphose, Make-up et SFX, et par Emeline Béranger de Arteid Studio. Donc, vous pourrez apprendre à façonner votre propre zombie. Ils vous présenteront les outils, vous aideront dans vos croquis avant de passer à la technique de modelage en argile, puis en plâtre, pour finir en latex. Et enfin, la mise en peinture. Alors certes, c'est un petit peu cher, 150 euros la journée, mais qui n'a jamais rêvé d'avoir un zombie chez soi ?
Moi.
Ah, ouais. Ben, moi, si. Moi, ça m'a toujours fait kiffer, hein, j'avoue. Alors, si vous êtes intéressé, ça se passe à l'ESAD du 28 au 31 octobre, de 9h à 13h et de 14h à 17h. C'est ouvert à tous, dès 12 ans, accessible aux collégiens via les chèques collège. Donc ça peut être pas mal vu le prix. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le Facebook de l'asso, Bulldog Audiovisuel, et sur leur site internet. Autre lieu, autre ambiance, visite nocturne de l'abbatiale de Corbie à la bougie. Les temps d'une soirée, vous pourrez découvrir l'abbatiale Saint-Pierre de Corbie avec ses deux tours imposantes et ses voûtes à 25 mètres de hauteur, située en plein centre-ville. L'office de tourisme vous propose une visite nocturne de l'édifice gothique éclairé à la lueur des bougies. L'occasion de découvrir les secrets et l'histoire de cette abbatiale qui joua un rôle de premier plan dans la Renaissance carolingienne. Un guide vous racontera des anecdotes étonnantes sur l'histoire du lieu, tout en explorant l'abbatiale dans une ambiance intimiste et chaleureuse. C'est ce vendredi à 21h, ça dure une heure et ça coûte de 5 à 8 euros. Vous pourrez retrouver toutes les infos sur le Facebook de Val de Somme Tourisme. Alors maintenant, c'est à Alvin. Tu as repéré quelques actus. Il s'agit de 5 spectacles jeunes publics au théâtre de marionnettes chez Cabotan à Amiens.
Ah ouais, c'est vrai, t'as raison. Alors, tout d'abord, j'ai trouvé 5 nombreuses représentations de contes qui est.
Chez Cabotan, ouais, voilà, comme j'ai dit.
Alors, tout d'abord, il y a Les Trois Petits Cochons.
Ouais, qui est bien connu.
Voilà. Avec, parlons des aventures de Nif Nif, Naf Naf et Nouf Nouf.
Nouf Nouf.
Voilà. Au travers d'un conte traditionnel anglo-saxon, parce que.
Ouais, ça, base, je savais pas, tu vois, tu me l'as appris voilà, en faisant
la base,
ta... ouais.
C'était anglo-saxon, mais moi, j'étais pas au courant. Et après.
Le deuxième, c'est quoi, sinon ?
Après, il y a Pierre et le Loup.
Ouais.
Qui est,
Marc, attends, je t'ai même pas demandé la date pour
la date.
Le premier. Ouais.
Bah, la date, tout d'abord, il y a le 28 du 10 à 15h.
Ouais.
Et le 29 du 10 à 10h30.
D'accord.
Ensuite, Pierre le Loup, qui était à la base un conte musical de Serge Prokofiev, qui a été mis en scène. Maintenant, actuellement, ils vont le mettre en scène avec les marionnettes de chez
Cabotan.
Cabotan, voilà. Et il demeure, on va dire, une immortelle leçon de certaines choses, de certains points de la vie.
Ouais, bah ouais, Pierre le Loup, ouais, c'est connu pour ça.
Alors, tu vas demander la date.
Ouais.
Alors, il y a tout d'abord...
Il y en a plusieurs, hein, je crois.
Les 24 et 28 du 10, même heure, 10h30. Et...
Il n'y a pas le 31.
Il y a le 23
ouais.
Et le 31 du 10 à 15h.
D'accord, ok. Le troisième, t'en avais repéré d'autres, je crois.
Alors, il y a aussi le Petit Chaperon Rouge,
ouais.
Qui est, qui a été, on va dire,
on va dire. Il y a la sauce picarde, c'est ça.
Voilà, la sauce picarde, parce que voilà, ils ont fait certaines choses. Grâce à ça, on peut trouver de nombreuses figures littéraires,
ouais.
Comme le loup et j'en passe. Alors, tout d'abord, les dates seront le 24 à 15h. Et le 25 à 10h30.
Donc je crois qu'après, il y en a deux autres. C'est quoi ?
Il y a Boucle d'or et les trois ours et ouais. Hansel et Gretel qui seront des réinterprétations.
Ça marche. Et alors, où est-ce qu'on peut retrouver toutes les infos, dis-moi ?
Alors, je vous conseille vivement de consulter le site internet de chez Cabotan. Alors, selon moi, c'est... Comment dire ? C'est... C'est raisonnable. Ouais. Parce que
les prix ?
Les prix sont de 5 à 10 euros.
Ouais.
Et franchement, c'est bien pour être entre famille ou entre amis, peu importe l'âge.
Mmh. Ouais, c'est jeune public, donc c'est pas mal.
C'est le jeune public et pour les grands.
Mmh. Et est-ce qu'il faut réserver ? C'est conseillé
il me
ou
semble
pas
que oui, c'est conseillé de réserver, non ?
Il me semble que c'est conseillé, ouais.
C'est conseillé.
Je pense, ouais.
C'est ça.
Bah, merci, Alvin. C'était vachement intéressant.
De toute façon, on va mettre toutes les informations sur les spectacles
ouais.
de chez Cabotan
mmh.
sur l'article d'ICS, enfin, dans l'article d'ICS d'aujourd'hui.
Tout à fait, vous retrouverez tout ça. Bah, merci à vous deux, en tout cas. Merci à toi,
merci
Alvin,
à toi.
Pour ta première chronique. C'était bien, ça va ? Pas trop stressé, tout va bien.
Non, c'est bon.
On se dit à bientôt et on se quitte comme toujours en musique avec Shopping Night de Cannibal. À tantôt. In my room, I look at my sweet guest. She swears her purpose above the sea cliff.
Everyone falls, stuck in my bed, the sea rises.